Les news. 102.1.
Le pit stop dans les prochaines secondes avec David Chabot en remplacement de Denis Gravel et qui est en vacances actuellement pour la semaine de relâche. By the way, bonne semaine de relâche tout le monde. Allez faire un tour à l'International de l'Auto de Québec. Il y a plein de choses à voir pour vous autres et pour les enfants aussi. On a pensé aux enfants. Et Max sera là à partir de 10h pour animer son show jusqu'à midi. Par la suite, ce sera Pascal Cévé qui prendra le contrôle des ondes pour On en jase avec Antonine et Mathias. Et par la suite, ce sera Véro avec Audrey et Mathias qui seront là dans le retour.
Antonine. Avec Antonine. C'est demain que c'est avec Mathias. Aujourd'hui, c'est Antonine.
Voilà. On a l'horaire de la journée. Si tu avais des choses importantes à nous dire, tu choisirais quoi?
Ben d'abord, un communiqué du SPVQ qui est entré dans les dernières minutes à l'effet qu'on a procédé à l'arrestation de 3 hommes hier en lien avec une agression armée qui était survenue dans le secteur de Limoilou dans les derniers jours. C'était fin février. Les suspects âgés de 18, 21, 31 ans qui ont été interceptés dans les secteurs de Saint-Émile et de Montcalm feront face à des accusations de tentative de meurtre et de complot de tentative de meurtre doivent comparaître au palais de justice de Québec. On s'en était parlé, je crois que c'était au début de cette semaine, là, les policiers qui avaient été appelés à l'hôpital pour un homme de 31 ans blessé par arme blanche. On avait réussi à localiser la scène de l'agression sur la rue des Capricieuses. La victime qui a été soignée pour des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger. L'enquête qui se poursuit. Les Québécois qui accepteraient une réduction de services pour combler le déficit mais veulent rien savoir d'une hausse de taxes et d'impôts. C'est le constat du nouveau sondage léger, le journal TVA paru ce matin. 61% des répondants seraient d'accord avec le maintien du même niveau de taxes et d'impôts qu'actuellement, quitte à diminuer les services offerts par l'État. En contrepartie, une mince proportion de 14% serait en accord avec une augmentation des taxes et impôts pour maintenir les services actuels offerts par l'État. Et le premier ministre du Canada, Mark Carney, n'est pas prêt à exclure catégoriquement une participation en Iran. Il a ainsi répondu à une question qu'il a qualifiée de fondamentalement hypothétique d'une journaliste concernant une possible participation du Canada dans le conflit, tout en rappelant que le pays n'a pas été impliqué dans les premières frappes américaines. M. Carney souligne que nous serons toujours aux côtés de nos alliés pour les défendre lorsqu'on fera appel à nous.
À Boulevard 102.1, c'est l'heure du Pit Stop. Pour les 30 prochaines minutes, Gravel et Marceau décortiquent les sujets chauds du jour et ce qui fait réagir le Québec. Ici, c'est sérieux.
Mais je tombe à terre, j'en reviens pas. Qu'est-ce qui se passe?
Mais c'est jamais plate. Disponible à tous les jours sur la page YouTube de Boulevard 102.1. Voici le Pit Stop.
Denis qui est en vacances, David Chabot, notre chroniqueur international, a accepté de le remplacer à pied levé. Salut David.
Salut.
Je te présente Jacinthe Varel.
On s'est déjà vu, je pense.
Vous êtes déjà rencontré?
Oui.
Dans des rassemblements de la droite économique?
Non, à Boulevard.
Ouais.
À Boulevard.
À Boulevard.
On s'est croisés sur les internets aussi.
Ouais. Ouais.
Moi qui pensais que vous étiez un peu sectaire, là, que vous vous réunissez dans un endroit à Québec, là, les 4-5, là, les spécialistes de la droite économique. Mais finalement, c'est ici à Boulevard.
On a un club secret, mais il est secret.
Ouais, c'est ça, vous pouvez pas en parler. Vous êtes à Boulevard Centre 2-1 ici.
Ah oui.
Donc, okay. On a des gens de la gauche.
Pourquoi tu me regardes?
Et on a des gens du centre. Et on a des gens de la droite économique.
Moi, j'ai pas de bar, je suis juste souverainiste.
C'est tout! À tout prix!
Ah ouais, c'est ça.
Ouais, exact, exact. Merci d'être là, David. Plein de choses à jaser, dont un sujet que j'avais avec Jacinthe-Ève tantôt. Je pense que c'était hors d'onde, vers l'entour de 5h55 ce matin. La position de Mark Carney sur la guerre actuellement entre Israël, les États-Unis contre l'Iran. Sa position, est, on dirait qu'il est un peu entre deux chaises. Ton point de vue par rapport à ça, puis après ça, j'aimerais donner le droit de réplique à Jacinthe.
C'est mi-figue, mi-raisin.
Exact.
Il souffle le chaud et le froid. Regarde, choisis ton expression. Une journée, il dit « on appuie sans réserve ». L'autre journée, il dit « ouais, mais le droit international, on y va à regret ». Après ça, il nous revient, il dit « j'exclus pas de déployer les forces là-bas, mais par contre, faites une désescalade parce que c'est bien important de la paix ». Donc là, sincèrement, je ne sais pas quoi analyser parce que je ne sais pas quel Mark Carney parlait de ça.
Pourquoi, selon toi, il ferait ça? C'est plus ça qui m'intéresse parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui tire profit d'une situation.
Oui, bien là, en ce moment, il y a une genre de semi-coalition qui est en train de se développer. Puis ça, c'est une des critiques que je peux faire à Donald Trump puis Benjamin Netanyahu là-dedans. Ils sont partis les deux. Gros gens comme devant, bing bang, on fait tout péter.
Ben, j'aime ça, ils critiquent Donald Trump. Après ça, je donne le droit de parole à Jacinthe-Ève.
Mais dans cet environnement-là, pour Trump, je trouve que il était temps de faire le ménage en Iran. Fait que c'est pas une critique complète, mais c'est une critique partielle parce que quand tu rentres pas de coalition, comme il a fait, ben là, tu te retrouves tout le temps un peu tout seul dans ta gang, puis là, les autres pays te regardent aller, puis dès que tu fais des erreurs, t'es tout seul à faire tes erreurs. Je trouve qu'il aurait dû créer une genre de coalition, ce qui est en train de se développer de façon informelle en ce moment, parce que là, la Grande-Bretagne a de l'intérêt, la France envoie le porte-avions Charles de Gaulle dans le secteur, le Canada, comme on disait, là, t'sais, pas trop sûr, mais peut-être qu'on va envoyer nos 4 F-18 qui marchent encore. Donc là... Puis, parce que sincèrement, quand on déploie, puis c'est rien contre les gars et les filles sur le terrain.
Hey Charles, peux-tu mettre les F-18 sur la batterie? On dirait que ça parte demain.
L'alternateur marche plus. Non, mais sincèrement, c'est un peu triste. Tant qu'on n'aura pas.
Jupon.
Tant qu'on n'aura pas nos F-35, mettons qu'on n'est pas tant équipés. Quoique les F-18 ont tiré les 3 F-15, les Koweïtiens ont tiré les 3 F-15 américains, fait que ça marche encore des F-18.
Ouais, c'est ça.
Mais bon, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que. Moi, personnellement, de s'engager dans ce conflit-là, j'y crois pas tant, parce que de toute façon, on fera pas de différence. La seule chose qu'on pourrait gagner à ça, c'est de dire on fait partie d'une genre de coalition qui se développe par après, puis on démontre la bonne foi, mettons, par rapport à Donald Trump.
Bien, on peut aussi aller aider sur le plan maritime parce qu'on sait que le canal, le détroit d'Ormuz, par exemple, qui est un point stratégique, si on peut assurer la surveillance de ça ou maintenir la paix ou assurer des positions de soutien aux forces armées qui sont déjà en place, ça pourrait être intéressant.
Est-ce que le lobby Jacinthe-Ève est aussi impressionnant, le lobby israélien, est-ce qu'il est aussi impressionnant aux États-Unis qu'il l'est au Canada?
Ben absolument. Et là où Mark Carney essaie de plaire à tous avec un discours un discours un peu ambivalent ou un peu à gauche, à droite, ouais. Un peu qui vise partout, c'est que probablement qu'il est un peu lui-même coincé entre son discours anti-américain qu'il maintient depuis début puis qu'il l'a porté au pouvoir et les pressions de soutenir des alliés et répondre à des enjeux de lobbyistes, notamment... de différentes puissances étrangères, dont peut-être Israël. L'autre chose, c'est qu'on oublie souvent la dimension des services secrets en arrière de ces conflits-là, hein, mais il y a énormément de renseignements qui ont permis de mener à ces opérations militaires-là en Iran. Et ben, quand tu parles de renseignements, quand tu parles de frappes chirurgicales extrêmement efficaces et ciblées comme on a vu en Iran dans les 6 derniers jours, ça a été extrêmement chirurgical, extrêmement efficace. Ça veut dire qu'il y a énormément de renseignements derrière ça. Le Mossad, le service de renseignement secret israélien, est un des meilleurs services, un des services de renseignement secret les plus efficaces au monde, les plus renseignés au monde, les plus efficaces et technologiquement aussi à la fine pointe. Donc, quand tu manipules du renseignement comme ça, tu ne peux pas partager tes données avec un ensemble d'États et commencer à former une coalition, puis s'entendre quand on va frapper, puis à quelle mesure on va frapper, puis qui va faire partie de cette coalition-là, c'est du renseignement. Puis le grand public, ben, est un peu tenu dans la brume aussi par rapport à ça.
Ben, je suis d'accord avec toi pour le partage de renseignements. Je pense que partager des cibles, c'est pas nécessairement partager la source du renseignement, mais très clairement, ils ont du renseignement de qualité exceptionnelle. Il y a quelques jours, là, c'est une histoire qui est ressortie en 2024, mais l'ancien président iranien, Ahmadinejad, en tout cas, j'oublie son nom exact, là, mais celui qu'on a vu 1000 fois là, avec les lunettes, là, nous disait que il y avait une équipe qui était là pour détecter les espions du Mossad au sein de son gouvernement. Puis finalement, turns out que cette équipe-là, c'était des gens du Mossad. Fait que là, les anti-espions, c'était des espions. Fait que là, tu sais, l'infiltration en Iran est phénoménale. Donc, je suis d'accord que partager toutes ces sources-là, c'est peut-être dangereux. Les cibles elles-mêmes, en tout cas, j'aurais moins de réserve. Puis pour ce qui est du détroit d'Ormuz, ben dans le fond, il n'y a plus de navy iranienne en ce moment. Là, c'est juste un enjeu de se défendre contre les missiles balistiques. Puis ça, à ma connaissance, en tout cas, puis on me corrigera là, des militaires, on n'a pas tant de systèmes antimissiles canadiens. On n'a même pas de système Patriot qui est comme une espèce de le jeu de base. Finalement, on ne l'a même pas. Mais parce que c'est pas parce que je veux décrier ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi sur le fond. Sur la forme, je sais juste pas ce qu'on va faire là-bas, à part peut-être larguer 2-3 bombes pour faire virer l'inventaire canadien, finalement.
OK. Sondage léger, c'est un tout autre sujet, les amis. Sondage léger, on dit que les Québécois accepteraient une baisse des services publics. Max va nous en parler.
Oui, c'est une autre portion des différents qu'on nous présente cette semaine, là, léger, le journal TVA. Puis en gros, ce qu'on retient, c'est que 61% des répondants seraient d'accord au Québec avec le maintien du même niveau de taxes et d'impôts qu'actuellement, quitte à diminuer les services offerts par l'État. Il y a une proportion de 14% qui serait en accord d'accord avec une augmentation de taxes et d'impôts pour maintenir les services actuels offerts par l'État. C'est un genre de 25% là, une personne sur quatre qui dit « je sais pas trop où me placer dans cette question-là ».
David, on a l'impression que tout s'écroule autour de nous au Québec. Heureusement, on a nos familles, ça va bien, on a des jobs, ça va bien, mais tu regardes l'impôt que tu envoies au gouvernement municipal par les taxes, l'impôt que tu envoies au gouvernement provincial, l'impôt que tu envoies au gouvernement fédéral, tu regardes le résultat de tout ça, ça semble être un fiasco. Puis là, ben, y a de l'incertitude économique, il y a de la guerre, il y a Donald Trump qui, au niveau de l'import-export, nous cause certains soucis aussi. Pourquoi on a toujours besoin, quand on est Québécois, pourquoi on a toujours besoin d'être dans marde avant de vouloir changer les choses? On a longtemps tenu à ce fameux panier de services-là, là, qui est très, très gras, qui prend beaucoup de nos finances publiques. Et là, tout d'un coup, on est tellement dans marde qu'on dit... Ben, savez-vous quoi? Couper des services, là, parce que nous autres, au niveau de l'impôt, on est saturés.
Oui, bien, de changer la structure de ça, là, de couper un programme existant, là, puis en tout cas, Jacinthe, je pense que tu as fait de la politique active, là, en tout cas, comme staffer, mais
ouais.
De changer des programmes, ça coûte du capital politique. Puis quand tu es élu, tu as un réservoir de capital politique ouais. variable selon ta popularité, puis le nombre de députés que tu as eu, puis etc. Tu sais, je vais parler pour le provincial, mais ça s'applique à tous les paliers. Donc, quand tu arrives et tu vas attaquer des vaches sacrées, du genre, je sais pas, le système de santé, on va le rendre privé, semi-privé, en fait, là, à deux vitesses. On l'assume pleinement au lieu de le faire tout le temps un peu sur le coin de la couverte comme on fait en ce moment. Ben tu dépenses du capital politique. Puis quand tu es élu puis tu as un projet de société comme gouvernement, là, comme par exemple la CAQ avait quand ils ont été élus en 2018 la première fois, ils nous annonçaient beaucoup de choses. Donc là, tu as des grandes ambitions puis ton capital politique n'est pas infini. Tu peux le remplir avec des bonnes décisions, mais tu peux pas faire juste des décisions courageuses et difficiles. Donc là, il faut que tu fasses des choix. Quand on a un sondage comme ça ce matin, je trouve ça très intéressant parce qu'on est tous pour la tarte aux pommes, puis on se dit, hey, là, des impôts, on en paye en sacrifice, puis c'est factuellement vrai. Mais la question, c'est, on coupe quoi? Parce que le budget provincial, on va encore focusser là-dessus, c'est genre 70% la santé puis l'éducation. Fait que là, si tu veux vraiment faire bouger le needle, là, l'aiguille, là, en bon français... Ben, il faut que tu attaques les gros postes de dépenses. Ça va déjà mal en santé, puis ça va déjà mal en éducation. Fait que là, c'est pas de couper des services, c'est de rationaliser, dans le fond, l'administration de tout ça. Puis ça, c'est le débat qu'on a depuis 40 ans.
Ouais, mais il y a aussi couper les subventions. Tu sais, Investissement Québec là, distribue à gauche, à droite des millions, soit dans les programmes normés. Là, donc, les montants donnés octroyés par les programmes normés sont moins impressionnants. Mais il reste que si tu cumules l'ensemble des enveloppes puis tous les fonctionnaires aussi qui travaillent chez Investissement Québec, eux-mêmes, leurs activités à l'étranger, leurs voyages, leurs salaires, les subventions qui sont données aux entreprises via les programmes normés ou pas, on l'a vu, tu sais, on a parlé de Nordvolt, on a parlé de Lion Electric, on a parlé d'un paquet d'entreprises qui ont eu des centaines de millions de dollars. Des entreprises étrangères qui ont toujours pu bénéficier au Québec. C'est culturel au Québec. Ouais. Les entreprises étrangères promettent qu'elles vont venir s'installer, mais magasinent quelle sorte de subventions, quelle sorte d'aide vont avoir. Si on cumule l'ensemble de ces enveloppes-là, c'est aussi des coupures qu'on peut faire où là, j'ai l'impression qu'on n'aurait peut-être pas autant de
souffrance, madame?
Ouais, puis d'opposition aussi, ouais. Parce que c'est vrai que si on dit on coupe tel service à la population, il va toujours avoir un groupe qui va revendiquer ou un syndicat ou des syndicats qui vont s'allier. Mais ça, j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être moins d'opposition, puis c'est des grosses enveloppes aussi.
Je suis d'accord. Ça dépend des industries, parce que c'est vrai qu'on est abonné à la subvention au Québec. Puis quand tu regardes la liste des subventions sur le site du ministère des Finances, là, c'est beaucoup des crédits aussi qui sont remboursables, ce qui veut dire que tu n'es pas obligé de faire du profit pour pouvoir avoir ton crédit d'impôt remboursé, ce qui est de l'argent finalement directement à donner. Il y a eu les prêts pardonnables avec M. Fitzgibbon pendant la pandémie. Ben, OK, c'est un contexte spécial, mais quand même, on a donné de l'argent à des entreprises. Donc, je suis d'accord là-dessus. Mais par contre, il faut se dire que ça dépend dans quelle industrie, mais on est souvent en compétition avec la planète au complet. Puis la subvention se donne allègrement à travers la planète. Donc là, quand on parle des fois de, mettons, l'industrie laitière, tu sais, il y a les quotas de production, c'est tout le temps un enjeu qui revient fréquemment. Je pense que notre programme est extrêmement généreux par rapport à ailleurs dans la planète, mais la Chine le fait, puis même aux États-Unis, l'industrie laitière est subventionnée. Nordvolt, ça a été une catastrophe totale, là, on se comprend, mais dans l'industrie spatiale, la grappe là, qu'il y a dans le coin de Mirabel, quand on attire des belles hélicoptères et des choses comme ça, des CAE, ben, on se bat contre d'autres pays qui, eux autres, ils mettent beaucoup d'argent sur la table pour avoir des emplois foncièrement payants. Donc là, je ne suis pas un fan des subventions, Moi, ce que je trouve qu'on fait mal, c'est d'expliquer la retombée des subventions qu'on fait. Donc, on dirait que c'est un peu caché. Tu as le rapport annuel d'Investissement Québec qui nous dit là, la moyenne de 3 ans, c'était comme 0% à peu près de rendement. Fait que là, on se dit, bon, on n'a pas perdu. On a perdu l'inflation, mettons, mais c'est une genre de micro-subvention pour soutenir l'industrie.
Mais tout cet argent-là, David, tu accotes ça sur le S&P 500, là.
Ouais.
On est riche, là.
Ben,
oui. On est exceptionnellement riche, là. Puis oui. Avec l'argent que tu fais, tu aides les entreprises?
Ben, c'est pas bête. C'est plus risqué, par exemple. Là. C'est ouais. Un peu ce que la caisse fait, là.
Je vais garder ce segment-là. Là. C'est le pas bête, là.
Ouais. Non, mais écoute, t'es comme un écureuil aveugle. Des fois, tu trouves des noisettes, puis il faut en profiter. Je suis fier de toi quand
ça
arrive.
Mais c'est ça, tu sais, le rendement, il est pas là, du côté d'Investissement à Québec. Je vais faire un parallèle avec le panier de services, puis Bernard Drainville, qui veut couper l'aide sociale aux demandeurs d'asile, parce que l'impression qu'on a, puis vous saurez me dire là, si vous avez la même impression que moi, c'est que quand quelqu'un arrive au Canada, il regarde dans toutes les provinces, puis là, lui, dans son pays, il part d'un pays du tiers-monde, puis il regarde le pays du Canada, qui est un pays riche, là, quoi qu'on puisse en penser, on est extrêmement riche en ressources, qualité de vie aussi. Il regarde les provinces, puis il dit « Tabarouette, Québec, le panier de service est pas pire. Ontario aussi, le panier de service est pas pire. » Il regarde à gauche, Alberta, oui, tabarouette, là-bas, faut que je travaille. Naturellement, ils vont aller vers des endroits où ils vont être bien encadrés pour débuter leur nouvelle vie au Canada. Puis très souvent, c'est l'Ontario et le Québec. Bernard Drainville semble comprendre qu'on est très attirant pour les nouveaux arrivants, pour les demandeurs d'asile, et veut couper l'aide aux demandeurs d'asile. Donc, le chèque de BS, il ne veut plus en donner aux demandeurs d'asile. Vous percevez ça comment, cette façon de faire de Bernard Drainville pour attirer des votes à la CAQ?
Bien, je trouve que c'est honnêtement une très mauvaise idée parce qu'on va avoir des demandeurs d'asile pareil parce qu'on n'a pas le plein contrôle sur notre immigration. Le Max va applaudir parce que si on était souverain, on aurait le plein contrôle là-dessus.
On l'aurait.
Peux-tu applaudir, s'il te plaît? Bon, parfait. Donc, c'est le moment souveraineté. Une fois qu'on a dit ça, quand tu es obligé de recevoir ces personnes-là, là, puis moi, personnellement, je suis assez favorable à ça pour un point de vue économique, là. S'ils sont ici et n'ont pas de ressources, là, ils se ramassent où? À la Boucherie Généreuse, puis dans les banques alimentaires, puis dans les services sociaux à Saint-Roch, puis peut-être même dans les rues à Saint-Roch. Puis on avait la discussion hier par rapport à l'itinérance. Ces gens-là viennent de quelque part. Puis je suis pas en train de dire que c'est des immigrants qui sont dans les rues en ce moment.
Non, je te confirme que non.
Mais ça peut arriver, parce que si tu ne donnes pas de filet social à ces gens-là, qui forcément n'ont pas grand-chose dans les poches, là, quand tu arrives ici, qui est un demandeur d'asile et non pas un immigrant, mettons, conventionnel, on va se le dire, là,
ouais.
C'est pas la même dynamique.
Je vais donner le droit de réplique à Jacinthe-Ève, mais je vais te revenir avec ça. J'ai une solution pour toi.
Bon. Non, mais là, dans chacune de nos problématiques, moi, je préconise beaucoup de regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs sur la planète, puis est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas.
Ouais.
Et en Europe, par exemple, avec l'espace Schengen, puis avec l'Union européenne, les personnes peuvent demander l'asile, arriver en Europe et se promener n'importe où. Ils peuvent arriver par l'Espagne, puis s'en aller par la suite en France, s'en aller au Portugal, ils peuvent se promener. Hein? Et... quel pays en Europe attire énormément les demandeurs d'asile, les immigrants? C'est la France, parce que la France a un panier de services, un filet social extrêmement généreux, et on sait que ça attire les gens, puis ça nous attirait nous-mêmes. Là, je veux dire, on ne peut pas blâmer le monde d'aller là où les ressources sont le plus appropriées pour te refaire une vie puis t'installer. Il n'y a rien de mal à espérer pour ta famille le meilleur. Là. Donc, les gens vont naturellement tendance à aller vers ces services-là. Donc, la même chose pour le Québec. Si on est plus généreux, si on offre des meilleurs services, les demandeurs d'asile, ils demandent l'asile au Canada. Ils le demandent au Canada. Alors, après ça, ils vont s'installer où ils veulent. Puis, on a cette tendance à imaginer qu'on peut contrôler la géographie, on peut contrôler l'immigration. On entend de plus en plus parler de l'immigration régionale, là. Hey, c'est des lubies, ça, là. Le droit de circuler au Canada, il existe pour tout le monde,
exact.
Y compris les personnes immigrantes, y compris les demandeurs d'asile.
C'est pour ça qu'on y va.
S'imaginer qu'on va régionaliser l'immigration en fonction des régions, en fonction des villes, c'est la même chose pour les demandeurs d'asile. Ouais. Ils vont se promener où ils veulent, puis ils vont aller là où c'est intéressant pour eux, où il y a de l'emploi, où il y a des paniers de services intéressants.
On essaie de les contrôler avec les permis de travail régionaux, ce qui fait en sorte qu'on se dit, ben, s'ils veulent changer de région, ils vont devoir demander un permis de travail pour cette région-là. Mais la solution, David, c'est pas une solution conne, là. C'est qu'à partir du moment où tu arrives au Canada, à mes yeux, à moi, je prends pour acquis que tu veux un monde meilleur pour toi puis ta famille, ben le permis de travail devrait arriver plus vite que le chèque de BS.
Peut-être.
Ceux qui passaient par le fameux chemin là, qu'on avait entre les États-Unis et le Canada, il y avait un montant d'argent qui était épouvantable en arrivant, là, qu'un blanc-bec là, qui a besoin d'aide n'aurait jamais pendant quelques mois. Je pense qu'on devrait tous être considérés sur le même pied d'égalité. Puis de savoir que ça prenait plus d'un an, je pense qu'à un moment donné, on est tombé à 18 mois pour le permis de travail pour les réfugiés, là. Puis que le chèque de BS, lui, arrivait la première semaine, je trouve ça totalement inacceptable.
Je suis d'accord que le permis de travail devait arriver plus vite. Le chèque ne devrait pas attendre, par exemple, parce que forcément, ces gens-là doivent vivre, là, on se comprend. Mais on focus beaucoup sur les immigrants de première génération qui arrivent des fois peut-être pas en parlant le français, parce que là, on a tout le débat de dire les immigrants, on va les choisir parce qu'ils parlent le français. Ouais. C'est pas toujours...
Pour laver la vaisselle, tu n'as pas besoin de savoir parler français. Tu as juste besoin d'un permis de travail, puis on devrait l'octroyer dès qu'ils passent les lignes. Voici ton permis de travail. On se rejase dans 3 mois. By the way, tu vas avoir un examen de français dans un an si tu veux rester ici.
Je suis d'accord. Le point que je veux juste amener, c'est que les immigrants de deuxième et de troisième génération sont extrêmement payants pour une économie.
Ben oui, c'est sûr.
On se le dit souvent, là, le taux de natalité au Québec, c'est à peu près 0,4. Non, j'exagère, mais c'est comme 1,25, je pense, maintenant. Là, 1,25 bébé par ménage ou par famille. Là, je ne me souviens plus le critère. Donc là, faut qu'on aide de l'immigration pour pouvoir soutenir l'économie parce que tantôt, on va être de moins en moins de gens qui sont natifs du Québec. Donc là, la première génération, c'est vrai que c'est un défi, puis ça l'est partout, sauf qu'il y a des études abondantes aux États-Unis notamment, qui est un contexte différent, d'accord, qui démontrent que la deuxième génération est même plus payante que des gens qui sont natifs des États-Unis, born and raised. Là. Donc là, parce que souvent, les gens, puis là, encore là, c'est pas un blanket statement, là, je parle beaucoup d'anglicisme ce matin, je m'excuse, c'est pas un témoignage couvert, en tout cas, peu importe. je sais pas comment le traduire, gang, là, il est tôt encore. Mais tout ça pour dire que c'est pas vrai pour tout le monde, sauf que souvent, t'es immigrant, puis t'es un demandeur d'asile, c'est pas vrai que ton rêve, c'est d'aller sur un divan puis d'écouter TVA. Ce que tu veux, c'est refaire ta vie. Donc là, forcément, ça passe par le travail, ça passe par installer ta famille, puis peut-être, oui, faire venir le reste du monde de ta famille.
C'est tout à fait humain, là.
Effectivement.
Mais l'estifi de chèque de BS, à partir du moment où il arrive au Canada, moi, je pense qu'il devrait avoir une aide de premier recours pour qu'il puisse, comme tu mentionnes, se trouver un endroit pour se loger. Mais il devrait arriver en même temps que, hey, bienvenue au Canada, voici ton permis de travail pour minimum un an. Puis dans un an, ben, si tu vas au Québec, ben, ça, tiens, tu devras apprendre à parler français.
Je suis très d'accord avec ça.
Puis sinon, ben, tu vas devoir prendre des cours compensatoires. Puis sinon, ben, tu vas devoir t'en aller. T'sais. Mais Bernard Drainville, sa solution, c'est une solution qui est populiste. Là, parce que,
clairement.
Mais j'ai l'impression qu'il va trouver oreille à Sainte-Ève.
Oui, mais on oublie toujours de parler à travers de ça aussi qu'un demandeur d'asile, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient demander l'asile au Canada et jusqu'à ce qu'il passe devant la commission des réfugiés qui va statuer si effectivement c'est dangereux pour toi de retourner dans ton pays et donc qu'on t'accorde le statut de réfugié ou pas. Et ça, ce passage devant la commission, il prend environ, on dit là, environ 2 ans, mais on a des histoires de 3 puis 4 ans facilement. 3 ou 4 ans où tu es demandeur d'asile et t'attends de passer devant la commission qui va statuer. Et souvent, cette commission-là statue là, une fois sur deux que oui, on t'accorde le statut de réfugié à 50% du temps à peu près, puis l'autre 50% du temps, on te retourne dans ton pays après 3 ou 4 ans que tu attendais de passer devant cette commission-là. C'est long, ça, avant d'avoir le statut de réfugié ou pas. Il faut en parler de ça aussi. Puis ça, ben ça relève du fédéral. Alors, ça donne des points à Max sur le contrôle de notre immigration. Non, mais c'est un autre enjeu. On parle beaucoup du contrôle de notre immigration sur les seuils, mais il n'y a pas que les seuils. Il y a aussi... Ça fait partie du contrôle de l'immigration. Qu'est-ce que tu fais avec les demandeurs d'asile puis les délais avant de passer devant la commission? Puis ça appartient 100% au fédéral qui laisse traîner les choses puis qui prend 3 ou 4 ans avant d'entendre les gens.
David, je parlais avec un haut fonctionnaire de l'État puis je parlais justement des permis qui était octroyé, puis il me disait que ça prenait un certain temps parce qu'il y avait des vérifications à faire. Oui, mais attends un peu, tu le fais rentrer au Canada. Tu sais, les vérifications devraient se faire avant que tu le fasses rentrer au Canada.
Oui, le problème, c'est qu'il y a l'immigration irrégulière qui passe par des chemins qui ne sont pas nécessairement encadrés. Là. C'est pas tout le monde qui va juste envoyer son formulaire en attendant.
Mais lui, il tentait de justifier que le 12 mois d'attente ou le 18 mois d'attente, c'était pour des raisons de sécurité. Non, attends un peu, il est déjà sur ton territoire.
Ouais.
Tu sais, t'as déjà accepté que ce gars-là, mettons que c'est un criminel, ben, il puisse faire du grabuge pendant... Tu sais, il n'y a rien qui empêche que le permis de travail arrive. Puis je répète, là, faire du gazon, t'as pas besoin de parler français, t'as pas besoin de parler anglais. Faire de la vaisselle, t'as pas besoin de parler français, t'as pas besoin de parler anglais. Puis on a besoin de ces gens-là pour venir s'établir chez nous, puis travailler, puis évoluer dans cette belle société-là. Mais à partir du moment où tu dis, trois ans avant qu'il passe en cours pour savoir s'il reste ou pas. On va subvenir à ses besoins. Panier de service, là, c'est ça. Il est gras, David.
Mais in the end, là, je serais curieux de savoir comment ça coûte annuellement versus tout le reste. Là. Je pense que c'est quand même pas beaucoup. Là. Puis ça veut pas dire que c'est pas grave. Okay, chaque dollar est important, mais je suis pas certain que c'est une quantité incroyable d'argent versus les anecdotes qu'on va avoir de gens qui restent vraiment sur leur divan à rien faire. Là.
Fait que t'as vraiment l'impression que Bernard Drinville prend ça parce que c'est populiste, mais la réalité serait tout autre.
Ben, on va se le dire, là, Bernard, en ce moment, il essaie de sauver sa campagne. Là. Okay? Fait que, on va se le dire en français. Donc là, il essaie de prendre des positions un peu plus, je veux pas dire choc, mais t'sais, qui marquent un peu plus l'esprit, parce que là, le train que Christine Fréchette roule très bien sur la rail, puis là, ben, il faut qu'il se trouve ces wedges, là, ces fameux enjeux qui vont le séparer, finalement, de Christine. De Mme Fréchette, je devrais dire, je la connais pas personnellement. Donc là, dans ce cas-ci, ben, c'est de frapper sur l'immigration. C'est quelque chose qui peut être quand même populaire pour la base militante de la CAQ, parce que rappelons-nous que la chefferie de la CAQ qui va décider le prochain premier ministre, c'est la chefferie de la CAQ, des membres de la CAQ. Puis par expérience, j'ai croisé beaucoup de membres de la CAQ qui étaient assez jeunes, que pour eux, j'ai eu le débat exactement de dire est-ce qu'on préfère une immigration, par exemple, qui est très limitée, puis à la limite, on fait une décroissance économique parce que là, on veut exactement les bons immigrants, ou au contraire, on se dit, ben regarde, la croissance économique est vraiment une priorité, puis après ça, ben, on verra comment on gère l'immigration. Puis pour eux, on préfère le déclin ou la décroissance en français que d'avoir une croissance économique puis avoir une diversité comme ça.
Okay. Ouais, mais parler de croissance économique avec le seul facteur de l'immigration, c'est pas que ça. Là.
C'est pas que ça,
parce que plus tu accueilles d'immigrants, plus tu as des jeunes à l'école, plus il faut bâtir des écoles, plus il faut embaucher des enseignants.
C'est
on est en pénurie d'enseignants. Non, mais à un moment donné, on le voit, là, le PIB par habitant au Canada,
il diminue.
Ouais. Ça veut dire qu'on crée moins de richesse par habitant.
Exact.
Fait que là, on a quand même chiffré que plus d'immigration n'enrichit pas nécessairement et crée pas nécessairement de la richesse. Là.
J'ai les chiffres. En 2020... pour ce qui est des chiffres là, de l'aide sociale qui était octroyée aux demandeurs d'asile, en 2020, c'est à peu près de combien? C'est en millions.
Ouais, ça doit être 150 millions peut-être.
Et t'es bon. Toi, t'aurais dit quoi?
Non, je check ton écran, fait que c'est pas juste.
Ah,
c'est tricheuse! 108 millions en 2020.
Ben, sur un budget de 125 milliards, c'est-tu vraiment ça?
C'est quand même 108 millions.
Mais on brûle du gaz socialement sur ces questions-là, puis on en revient à notre sondage de tantôt que l'immigration, c'était quoi? C'était 7%, 8%? Versus tout le reste des enjeux sociaux. Ouais. Là.
Tu me dis que tu veux bien t'occuper de mon dollar. Pour moi, 108 millions, ça a de la valeur. Donc, 108 millions de chèques d'aide sociale donnés aux demandeurs d'asile en 2020. En 2024, on est rendu à combien? Max, tu vois pas mon écran, toi.
T'es combien en 2020?
108 millions.
150. Pour prendre son chiffre.
En 2024, on serait rendu à 150. David?
Ben, probablement que c'est genre 225, parce qu'il y a eu quand même une bonne vague.
On est rendu à 507,7 millions de dollars en 2024.
Oh
et cette année, on prévoit une explosion des coûts. Fait que oui, Bernard Drinville profite du fait qu'il y a un fond de xénophobie au Québec, puis un fond de racisme pour arriver avec cette affaire-là. Puis il y a des raisons, comme le produit intérieur brut, qui nous prouve parfois que l'immigration de masse, c'est rien pour aider notre belle société.
Mais fond de xénophobie puis de racisme, as-tu vraiment dit ça?
Oui.
Arrête-moi ça.
Ah, je te dis.
Ben non, tu peux...
Québec,
non,
Montréal...
Non, arrête-moi ça, là. Tu peux être contre l'immigration massive.
Non, ça
tu peux être pour une immigration contrôlée sans être raciste.
Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus.
C'est quoi cette histoire-là de fond-là? Me semble
Québec,
vu, là.
Montréal, Drummondville, Trois-Rivières, on a la chance de côtoyer les communautés culturelles. Okay? Mais quand tu vas dans des endroits un peu plus éloignés, où il n'y en a pas un dans le village, tu entends des affaires qui sont épouvantables. Je me promène pas mal, j'ai des amis pas mal, ces réseaux sociaux, j'ai du monde qui viennent de partout. Puis je te garantis qu'au Québec, il y a encore, malheureusement, un fond de xénophobie parce qu'ils ne côtoient pas ces communautés culturelles-là. Le biais qu'on a ici, c'est qu'on les côtoie. On a la chance de les côtoyer, puis blanc, noir, jaune, bleu, vert, ça, on n'en a rien à foutre, là, tant qu'ils sont corrects. Mais dans certains endroits un peu plus éloignés où ils n'ont pas la chance de les côtoyer, ils les aiment pas ben, parce que tout ce qu'ils voient des nouvelles de Montréal ou des nouvelles de Québec, c'est « Ah, on parle des gangs de rue! » Ben, ils ont, ils n'en ont pas de gangs de rue, là.
Ouais. Je sais pas. Je sais pas.
Trouves-tu ça logique? Quand t'es côtoie, t'apprends à les aimer, Quand tu ne côtoies pas, tu entends juste les mauvaises nouvelles, tu te dis, voyons, ça n'a pas de bon sens. Regarde.
Ouais, mais je fais la distinction entre pas savoir bien s'exprimer ou exprimer ses idées ou faire des raccourcis.
Fait qu'il n'y a plus de xénophobie puis il n'y a plus de racisme.
Mais voyons, amène n'importe quelle personne étrangère à Matane, à Sainte-Flavie, puis fais-la promener dans l'épicerie. Elle se fait pas insulter, elle se fait respecter. Rencontre n'importe qui à l'épicerie à Sainte-Flavie, dans le Bas-Saint-Laurent, puis dans le. Même pas, on est rendu en Gaspésie, rendu à Sainte-Flavie. Puis fais-lui rencontrer une personne étrangère. Elle va pas l'envoyer promener, elle va pas la menacer. Elle va être tout à fait polie et adéquate. Les Québécois sont polis, ils sont respectueux, sont ouverts, voyons. Même en région éloignée.
Mais c'est pas une question d'insulter les régions. Ce que je te dis, la xénophobie, c'est la peur de l'étranger, Jacintel.
Ouais, mais.
C'est pas un manque d'intelligence, là. C'est juste que tu as peur de l'étranger parce que tout ce que tu perçois, que tu ne vois pas, puis avec qui tu n'as pas la chance d'échanger, ça se peut que ça te laisse craindre le pire. Va sur les réseaux sociaux, mets une photo de 6 pimps noirs. Il y a des pimps blancs, soit dit en passant, là, mais mets 6 pimps noirs sur les réseaux sociaux, là, puis automatiquement, ils vont dire « Ah, c'est des bons Québécois, hein? » Même si les gars sont nés ici. Là.
Mm-hmm.
Mais par contre, quand il y a des pimps blancs qui passent dans les journaux, là, on met ça sur les réseaux sociaux, puis c'est comme si c'était mieux toléré que des pimps noirs. Mm-hmm. Alors que c'est toujours bien des gens qui profitent des êtres humains.
Ouais, ben.
Je pense qu'il y a encore un fond de xénophobie, puis il y en a qui peuvent s'amuser avec leur promesse électorale là-dessus.
T'sais, je trouve que le vrai débat, là, juste pour ramener ça un peu dans le quantitatif, là, on ne l'a jamais, c'est quoi le bon chiffre d'immigration? On a eu des débats sur le seuil, là. C'était du 50 000, c'était du 35 000. Ça semble être sorti d'un chapeau, là, comme un genre de lapin, que moi, je feel que c'est moins que 50, fait que ça va être 35. Basé sur quoi?
Ouais, c'est ça.
Ouais, ça.
Puis là, Justin Trudeau a fait complètement l'inverse. Il a dit, moi, c'est open space, puis let's go 100 millions au Canada d'ici 2000, je me souviens plus quoi. Là, c'est totalement l'inverse là, de cette discussion-là, mais on peut-tu avoir des économistes indépendants qui vont nous dire comment ça prend le monde pour faire soutenir l'économie? On l'a pas, ça.
Mm-hmm.
Parce que c'est un débat qui est purement politique, puis les politiciens, c'est pas tous des spécialistes de la question, exact. Comme ils sont rarement spécialistes
de
quelque
chose. Mais non, mais de toute façon, là, au-delà, tu sais, t'as un bon point, sauf que ce chiffre-là, là, il varie en fonction de plein d'autres variables.
Oui.
Est-ce qu'on veut relancer... la filière de la production d'énergie hydroélectrique au Québec. Est-ce qu'on veut se lancer dans la construction de grands barrages parce qu'on s'est dit, de toute façon, on l'a trouvé, notre recette, nous autres, de l'énergie propre, mmh. c'est l'hydroélectricité, c'est notre force, alors on va se lancer dans la construction de barrages. Donc, on sait que au niveau industriel, on va avoir besoin de tant de travailleurs dans tel secteur. Et là ben, le chiffre n'est pas le même que si on est dans la société actuelle où... L'économie roule juste de façon circulaire. Ouais. On récolte des taxes et les impôts. On donne ça en subvention à des entreprises étrangères qui viennent s'installer chez nous puis qui nous retêtent d'autres subventions dans 3 ans. Puis on octroie des contrats à l'entreprise privée, mais c'est des contrats qui sont donnés par l'État. Donc, on stimule l'économie artificiellement en disant bien, on va stimuler l'industrie de la construction, on va nous construire des écoles puis des hôpitaux. Et là, à ce moment-là, on n'est pas dans la création de richesses. Puis si on n'est pas dans la création de richesses puis dans la relance de grandes filières industrielles, Ça vient complètement changer la donnée de combien de personnes immigrantes, quelle est notre croissance de population qu'on a de besoin.
Entièrement
ici, hein?
D'accord. Puis là où je te rejoins encore plus, parce que j'étais en train de réfléchir à la discussion qu'on avait, c'est que, tu sais, Paul Saint-Pierre Plamondon a des qualités, des défauts, là, mais quand il parle d'immigration, s'il parle de seuil d'immigration, on n'a pas le droit de parler de racisme là-dedans. Là. C'est notre capacité à intégrer ces gens-là dans notre société. Puis malheureusement, pour des gens qui veulent tuer le débat, ils vont crier rapidement au racisme.
Absolument, parce que ça fait mal à tout le monde. Personne ne veut se faire nommer comme raciste. Là. D'où l'importance, peut-être, là, je sors ça de mon chapeau ce matin, mais on peut-tu faire une commission indépendante pour déterminer c'est quoi les bons seuils ou faire une analyse, mettons, macroéconomique avec des gars comme, mettons, Vincent Geloso, qui est vraiment sharp comme économiste puis qui est capable de sortir, dans le fond, des débats émotifs pour aller proposer des solutions quantitatives, tu sais.
Et là, vous autres, là, les deux, vous avez travaillé en politique. Là. Quand on me menace de faire de la prison si je remplis pas la feuille du recensement, là...
Mm-hmm.
Ça sert à quoi, le recensement? Mes enfants ont quel âge? Je gagne combien? Combien de personnes dans mon ménage? J'habite où? Ça sert à quoi de remplir ça si les politiciens en haut ou l'administration publique n'est pas capable de travailler avec ces données-là puis de créer des CPE, de créer des écoles, de créer toutes les infrastructures autour des renseignements qu'ils ont?
Parce que le recensement, tu regardes en arrière, tu ne regardes pas en avant. Mm. Fait que ça prend de la projection, puis c'est là que c'est important. Que, puis encore une fois, des analyses, mettons, de retombées économiques où on nous vend des subventions à coups de milliards parce que ça va être des retombées économiques, c'est souvent de la bullshit. Fait que là, tu sais, c'est pas parfait non plus ce que je vous dis là, mais si on est capable de faire un genre de think tank qui est comme assez indépendant puis qui est capable d'être crédible dans ces démarches-là pour effectivement regarder le recensement puis pas t'envoyer en prison, Marceau, parce qu'on veut t'avoir en arrière du micro.
Merci, c'est gentil.
Ouais, ben écoute.
T'es le premier qui me le dit, d'habitude, c'est tout le temps le contraire.
Mais je te flatte un matin parce que je te dis, je veux pas que tu sois en prison puis t'es comme un écureuil. Fait que là, mané, là.
C'est ça, c'est positif, ça.
Ben, c'est comme un genre.
Un écureuil, ça mange des noix, ça, c'est.
Ah, ben là, tu peux aller là si tu veux. Moi, j'y vais pas. Puis ce qui est dans nos conversations reste dans nos conversations.
Merci, David. On reprend ça demain. T'es avec nous demain, toi?
Oui.
Bon, ben, on va reprendre ça demain. Tu reviens demain? Avec oui. David Chabot et Jacinthe Varel. Parce que Jacinthe, normalement, est là le vendredi. Fait que là, toi, tu voles la job de Jacinthe demain.
Ah, c'est ça.
Puis Jacinthe, elle tente de, par tout son pouvoir de voler la job à Jeff. Moi, j'aime ça, moi. Tout le monde donne le meilleur de lui-même. Puis on a Max.
Moi, je suis là. Puis je parle de souveraineté.
Max!
Je fais la circulation des fois aussi. C'est beau partout, sauf, je vous rappelle encore une fois, 20 Est qui est fermé. C'est pas dans la région directement, mais quand même, là, c'est dans le coin de Saint-Janvier, de Joly, où il est survenu un accident cette nuit. Donc, 20 Est, il y a un détour à faire.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la circulation,